Onde Noire, deuxième partie. Et Corinne, tu vas donc nous parler d'un roman états-unien.
Un roman, voilà, on part de l'autre côté de l'Atlantique. Et je vais donc vous parler d'un roman qui s'appelle « Viens avec moi ». C'est le premier roman traduit en français d'un Américain. Cet Américain s'appelle, vous allez tout de suite voir que c'est un Américain, Castle Freeman Jr., J.R. Ce roman a été écrit, ou tout au moins il est paru aux États-Unis, pardon, en 2008, et il est traduit par Fabrice Pointeau, et les éditions Sonatine. Ce qui caractérise ce récit, ce sont surtout les personnages, les dialogues. L'argument, le thème, l'histoire, ça peut être très facilement résumé. Une jeune femme, Liliane, harcelée, malmenée par le caïd du coin. Lequel coin est un endroit complètement paumé du Vermont, qu'on ne sait même pas que ça existe. Cette jeune femme va donc demander de l'aide à un autre personnage et, en gros, va se retrouver flanquée de deux espèces de faux paumés, deux perdants, deux losers, le vieux Lester, passablement handicapé du corps, et Nate, le jeune, lui complètement cramé du cerveau. Et ce trio improbable, Liliane, Nate et Lester, vont errer de bar en rade à la recherche du très diabolique Blackway, qui semble bien être invincible. Voilà, je résumais en gros toute l'histoire. Mais, comme je disais au début, ce roman, il vaut pour les personnages. Lester, Nate, déjà bien gratignés, et Liliane, elle doit être ou complètement désespérée, ou elle aussi un peu fêlée du bocal, pour s'aventurer avec ses deux compères, qui semblent certes tout dévoués à sa cause, mais pas franchement complètement fiables. Du coup, les scènes d'action, les scènes où la violence se déchaîne, comme on dit dans les meilleures chroniques, bien, ces scènes vont être la plupart du temps détournées, tordues, et prêtes en gros à sourire. Et je ne dis pas ça, ce n'est pas une critique, c'est une qualité. Autre personnage haut en couleur, c'est celui à qui s'adresse au départ Liliane, Weezer et sa bande. Alors Weezer, c'est vraiment un drôle de personnage. C'est un bûcheron, va connaître toute son histoire et il finit sa vie en fauteuil roulant. C'est lui donc qui a confié Liliane à Lester et Nate. Et c'est le propriétaire d'une ancienne fabrique de chaises, une scierie. Et il se réunit chaque après-midi avec ses potes dans son usine. Il sirote des bières et il commente les événements au fur et à mesure qu'ils se produisent. Donc, ils vont en quelque sorte être une sorte de voix off pour narrer et surtout pour faire des commentaires sur tout ce qui arrive au trio. Et c'est ce que je vous disais au départ, dans les mots, dans les dialogues, ce livre est très intéressant. En gros, de manière classique, ce sont les scènes d'action qui devraient amener le rythme et la cadence. Et ici, ce sont les commentaires, les dialogues, j'ai mal à la gorge, vifs, bref, les échanges entre Weezer et ses amis qui scandent la narration. Quand je parle de dialogue, ce sont souvent de simples mots qui sont échangés et qui fusent de l'un à l'autre. Alors, un tout petit extrait, je ne vais pas citer les protagonistes. Il fait quoi? Je pourrais pas te dire. Il s'arrange pour rester hors de prison, ou pas. Qu'est devenu l'herbe? Mystère. Je serais pas surpris si elle était arrivée jusqu'à certains des amis de Blackway. Des amis hors de l'État, des associés, des relations d'affaires que Blackway a ici et là. Voilà. Et ça fuse constamment. Et on a une sorte de coryphée qui commente un petit peu.
Si c'est Weezer qui raconte, en gros, c'est quelque chose comme des Weezer Reports, alors.
Waouh! Mais tu es en forme! Donc voilà, l'histoire, c'est pas le fort de ce roman, les dialogues, les personnages, ça vaut le coup. On ajoutera quelques belles pages sur des lieux, sur des atmosphères. J'ai beaucoup aimé la description au début de la scierie abandonnée où Weezer va finir sa vie. On sent presque le bois, la résine, les copeaux. Les bars clandestins aussi, la description des bars clandestins, c'est pas mal non plus. Des bonnes idées donc quant à la construction du roman, cela donne une lecture agréable, plutôt rapide, d'un roman certes pas inoubliable, mais qui laisse quelques ondes positives, et ça c'est déjà pas si mal. C'est d'ailleurs une lecture qui a dû être très agréable à certains scénaristes, puisque l'on nous annonce, dans très peu de temps, sur la quatrième de couverture, la sortie prochaine d'un film avec, excusez du peu, Anthony Hopkins et Ray Liotta. C'est quand même pas mal. En tout cas, c'est à surveiller. On verra aux affiches. Un petit peu de musique. comme on va dire, comme on dit souvent, sans transition.
Sans transition, une chanson de Graham Nash, jouée par Crosby, Stills, Nash & Young en 1960.
Et même chantée par
ces 3-4 musiciens américains, dont un est canadien. Et c'est en 1974. Et une chanson qui s'appelle Military Madness, et c'est ça parle de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, mais c'est valable pour toutes les guerres malheureusement. C'était Crosby, Stills, Nash & Young, qui n'étaient peut-être pas au mieux de leur forme vocale, on va dire.
Voilà. Et par contre, on retrouve avec un grand plaisir quelqu'un qui doit être très en forme avec ses cordes vocales, c'est Frédéric Prieux. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir Corinne et Jacques, oui, c'est la forme.
Voilà, donc vous avez intérêt à tenir la forme, parce qu'apparemment, vous ne parlez pas d'une BD, mais de 5, non ?
Oui, 5 d'un coup, il va falloir prendre son souffle large.
Voilà, alors il y a une raison.
Oui. C'est la sélection, tout bêtement. On est au mois de janvier, hein. Alors en janvier, c'est quoi ?
En janvier, la Chandeleur, non, Angoulême.
Oui, voilà. Donc je vous parle tout simplement ce soir de la sélection du Fauve Polar SNCF. Je vais pas faire de longue introduction.
Il y a des femmes.
Pardon Corinne, j'ai mal entendu.
Est-ce qu'il y a des femmes ?
Oui, vous allez voir.
Voilà.
C'est une surprise.
Voilà.
Donc la sélection du pauvre polar SNCF, je la donne par alphabétique parce que c'est bien connu, j'aime l'ordre. Voilà. Donc c'est parti. Donc je commence par I comme inspecteur Kurokochi de Takashi Nagasaki au scénario et Koji Kono au dessin aux éditions Komiku. Alors vous avez bien compris, c'est le manga de la sélection.
C'est le manga.
Voilà, bravo. Donc il met en scène un personnage particulièrement déplaisant, celui qui donne son nom à la série, l'inspecteur Keita Kurokochi. Pourquoi déplaisant? Parce que voici un flic très corrompu, le plus corrompu jamais rencontré dans toute l'histoire de la BD. Bon, d'accord, j'exagère. N'empêche, oui. Vol chez les victimes sur les scènes de crime, chantage, raquette, extorsion, mensonge permanent. La liste ne semble jamais vouloir s'arrêter et personne ne semble vouloir s'attaquer à cet inspecteur complètement ripou, tout bonnement parce qu'il œuvre depuis très si longtemps qu'il a une connaissance quasi encyclopédique du monde des affaires et de la politique. Donc, personne, sauf une agence interne qui envoie un officier administrateur qui s'appelle Shingo Seike auprès de lui pour enquêter sur lui, car on soupçonne carrément l'inspecteur en question de meurtre. Ça va jusque là. Donc le collègue Seike, voilà, je vais y arriver.
Il valait mieux que ce soit le premier, lui, hein.
Oui. Okay. Il se retrouve avec son Kurokochi sur les bras, et après quelques temps où il voit son collègue à l'œuvre dans des pratiques plus ou moins douteuses, il se demande si en fait ce flic véreux ne cache pas un but suprême et noble derrière ce comportement étrange. En fait, c'est un manga vraiment original qui fonctionne par enquête au cœur de la société, et on découvre certains mystères judiciaires. C'est un tome 1, la série en comporte 5, et il y en a 11 dans la version japonaise actuellement. Donc voilà, le prix, petite parenthèse, le fauve polar a décidé de ne mettre que des tomes 1 quand il y a des séries cette année, c'est une bonne chose pour le jury. Voilà, deuxième titre, haut comme Olympia de Bastien Vivès, Rupert et Mulot. Ils sont trois, c'est un trio, aux éditions Dupuis dans la très belle collection Air Libre. Alors, il y a eu la grande Odalisque qu'on retrouve les trois personnages, Alex, Sam et Carole. Je cite le trio de braqueuses les plus sexy que la Terre et la bande dessinée aient porté. C'est pas beau ça, madame?
Oh oui.
Donc, je vous le dis tout de suite, les seules femmes qu'on va trouver dans la sélection, ce sont celles-là. Donc, ce sont de sortes de drôles de dames du 21e siècle qui se sont spécialisées dans le vol de haut vol. Elles sont bonnes, celles-là.
Oh et oui, dans les décidément, tout le monde est très en forme ce soir.
N'est-ce pas? Après tous ces et mois, oui. Ne pas vous avoir... donc volontiers casse-cou, tête brûlée, on avait quitté le trio en mauvaise posture après un périlleux cambriolage au Louvre et la disparition carrément de Carole. Alex et Sam, donc les deux autres, vont être contraintes par la mafia de reprendre leurs coupables activités et on leur commande rien de moins que le vol de trois tableaux d'un coup, dont l'Olympia de Manet, exceptionnellement exposé au Petit Palais à Paris. Et voilà que Carole, qu'elle croyait morte, fait sa réapparition, enceinte jusqu'aux yeux. Donc je vous passe tous les épisodes, mais juste ce que je peux vous dire, les amis, c'est que ce tome 2 est littéralement roboratif, un mot que j'aime beaucoup. On sort de sa lecture avec une pêche d'enfer quand il est mené tambour battant.
Frédéric, excusez-moi de vous interrompre, j'avais cru comprendre que cette sélection, vous aviez décidé de ne mettre que des tomes 1.
Non, c'est pas ça. C'est
pardon.
Là, ce n'est pas un tome 1, c'est que la sélection du fauve polar comporte des tomes ou pas, et là ce n'est pas, voilà.
Ah oui,
j'ai dit après le grand disque.
D'accord.
Très juste, ça ne se suit pas, voilà, très joli.
Ah mais c'est, ça doit être moi qui ne suis pas bien, c'est ça plutôt.
Voilà, ça ne se suit pas du tout. Et donc tout ça pour vous dire que ça quand même, tout ça tient un peu de Diabolique et d'Arsène Lupin, avec des femmes à la place des mecs, c'est ça qui est intéressant dans cette série, entre autres, voilà. Donc,
Après le I et le O.
Le S, ça va dans l'ordre, hein, n'est-ce pas?
Oui.
Comme Southern Bastard, un tome 1 cette fois-ci, des Américains Jason Latour et Jason Aaron, chez Urban Comics. Donc ce que cette fois-ci, c'est le comic de la comique, alors pas de la situation, mais de la sélection, n'est-ce pas? Donc l'histoire, Earl Tubb est de retour à Crow County, une ville qu'il avait fui il y a plus de 40 ans. Il est juste là pour récupérer les affaires et vider la maison de son vieil oncle mort, Bull, il s'appelle. Il veut pas faire autre chose, parce qu'il n'a pas envie d'arpenter les rues en souvenir du bon vieux temps, celui où son père était lui-même shérif de cette ville. Non, c'est trop compliqué pour des histoires sombres familiales. Mais en fait, on ne se refait pas, parce que le voici témoin d'une scène insupportable à ses yeux, et il laisse parler son cœur et ses poings. Il va se retrouver au début de très très gros ennuis pour lui, et surtout face au shérif actuelle de la ville qui n'était autre, qui n'est autre que l'ennemi juré de son père. Voilà, c'est un petit peu tiré par les cheveux tout ça, mais ce qui est par contre vrai et exceptionnel et magnifique, c'est que, je m'emballe, mais Jason Aaron dit dans sa préface qu'ils ont voulu, avec son collègue dessinateur, rendre hommage à leur manière à ce Sud que Jacques aime bien, n'est-ce pas Jacques, des États-Unis qui les a vus naître, lui comme le dessinateur, mais alors, il cite, je cite, cet endroit où que tu peux à la fois aimer et haïr et que qui te manque, qui te manque, oui, mais que tu crains. Il parlait aussi du niveau un petit peu intellectuel bas de plafond, dans un peu plus loin dans la préface, mais je vous en fais grâce. Donc là, en fait, ils y vont franco, on se retrouve dans une ville complètement sous l'emprise d'un fou furieux, et c'est très très difficile de se sortir indemne de ça. C'est âpre, sombre, rugueux, c'est magnifique. Voilà.
Puis-je poser une question ? Donc c'est bien, oui, une BD qui nous vient des États-Unis.
Oui.
Donc il y a un traducteur.
Yes, je sais plus qui c'est.
C'est alors pas grave, là, c'est pas grave, mais voilà.
Il y en a un, effectivement, et je ne l'ai pas sous la main.
Comme on rend grâce souvent à ces gens, exact, qui nous font passer si bien les textes et les bulles,
ouais,
voilà,
ouais.
On le mettra sur le site.
Oui, ouais, 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 c'est vrai. Là, effectivement, ça vaut vraiment le coup. Alors après, nous avons eu comme Undertaker. Alors c'est drôle parce que ce n'est pas une série américaine, mais c'est signé d'un duo français, Xavier Dorizon, Ralph Meyer, c'est chez Dargaud. Donc c'est un tome 1 cette fois-ci, cher Corinne et Jacques.
Je suis
le Mangeur d'Or. Donc le Mangeur d'Or, je vous explique que nous sommes aux États-Unis, période western. Jonas Crow, c'est son nom, exerce le métier de croque-mort. Alors c'est pas lui le Mangeur d'Or, hein, vous allez voir. À bord de son corbillard, il sillonne le pays et propose ses services. Et voilà que on fait appel à lui à Anoka City, une petite cité minière. Et celui qui fait appel à lui, c'est n'est autre que Joe Cusco, le patron de la mine d'or locale. Et le deal qu'il lui présente est tout simple. Il s'agit de transporter un cadavre à 50 miles d'Anoki. Et le cadavre en question n'est autre que Cusco lui-même. Ah. C'est-à-dire que l'homme, il n'a pas envie de tremper, de terminer sa vie comme un légume, donc il préfère en finir et il a décidé d'avaler une bonne dose de curare pendant la nuit, mais il aussi a ingurgité de l'or, beaucoup d'or. Et lorsque sa gouvernante lit son testament, hein, on apprend que Cusco l'a rédigé en donnant 3 jours pour que son cadavre soit transporté à destination, une destination lointaine et mystérieuse, une mine, sinon un otage serait exécuté, on ne sait pas qui est l'otage et tout. Donc,
c'est original comme le scénario,
oui,
est intéressant.
Oui, surtout qu'on sent que le croque-mort en question n'est pas vraiment un passé un peu bizarre. Donc, le plus grand western de plus Blueberry, dit la couverture, rien que ça, mais ce qu'il faut avouer, c'est que c'est vraiment super réussi. Graphiquement, c'est irréprochable, et scénaristiquement, c'est assez inattendu. On se croirait un petit peu dans Deadwood, matinée de Six Feet Under, parce que, en fait, Undertaker, c'est croque-mort, donc, comme vous aviez compris. Et on croise
sous la terre,
une belle galerie de personnages, hein, pas que dans les mines, les galeries, et au caractère bien trempé. Voilà. Et c'est une super idée,
c'est trempé dans leur fin, d'ailleurs.
N'est-ce pas? Et il y a déjà un tome 2 de paru qui s'appelle La danse des voitures, qui est paru fin novembre. Et comme je suis très très doué avec mon ordre alphabétique, je vois que j'ai sauté le T. T comme tungstène, qui est la dernière.
Parce que T, c'est juste avant le U.
Sélection.
Et donc 2 minutes pour le T.
Oui, ben c'est parfait. Donc c'est de Marcel Quintanilha. Alors là, vous irez voir sur le site parce que j'arrive pas à le dire correctement, j'ai l'impression. C'est brésilien aux éditions Ça et Là. Les excellents éditeurs de Mon ami Damer. Donc ça se passe à Salvador Bahia, de Bahia au Brésil, au pied du fort de Notre-Dame de Montserrat, un fort donc, deux types embarquent pêche à la dynamite. C'est efficace mais pas forcément toléré. Ils sont vus depuis le fort par un certain monsieur Ney, sergent à la retraite, et par un jeune homme avec qui ils discutaient 4 jours. Complètement outré par le comportement des pêcheurs, le vieux militaire somme 4 jours d'appeler l'armée, mais ça donne rien, l'armée a d'autres choix à fouetter. Et comme le vieux insiste et manque de dénoncer Kadjou à la police, car il sait que le gars deal, le vieux,
le gars deal,
clairement, c'est très très étrange ce que je vous dis. Donc le jeune appelle Richard, un flic, qui était là, juste en bas, dans une plage, pas loin, en train de se reposer. Il voulait pas qu'on l'appelle, qu'est-ce qu'il était en repos, et il y va quand même, juste au moment où sa femme, à lui, au flic, essaye de l'appeler pour lui dire quelque chose de très important sur leur vie de couple. En fait, c'est un portrait de ces 4 personnages, une tranche de vie en forme de fait divers que Quintanilha nous donne à lire en 180 pages, qui commence tout doucement avant de monter, mais vraiment en pression, et pour lesquels on, comment dire, chacune des actions des 4 personnages peuvent amener des fins différentes suivant l'option qu'ils vont prendre. Voilà, tout ça sous une tension extrême.
Tension extrême, puisque c'est la fin de l'émission, Frédéric, je suis désolé.
Oui, et c'est
on retrouve toutes ces BD sur BD Polar.
Voilà.
Merci beaucoup Frédéric et on espère à très bientôt.